Toutes ces flammes ramenèrent aux souvenirs des plus anciens les heures sombres de la ville, qu'aucun n'avait vécu de fait, mais que tous avaient entendu raconter dans leur jeunesse, et que l'on appelait encore « l'eau grand mazel », ce qui dans la langue occitane signifie « grande boucherie ». Des décombres de la première demeure ont sorti les corps calcinés des deux drapiers, et de la seconde, on ne put sauver que M. Ardignac, le prévôt, qui à cette heure encore pleurait sur le cadavre de son fils François. Comme les feux avaient pris presque simultanément en deux lieux éloignés du bourg, les habitants de Béziers conclurent rapidement qu'ils étaient d'origine criminelle. Et comme Alice manquait, le prévôt affirma très tôt que la jeune fille était la coupable. Elle qui avait comploté avec un vieux juif. Et il fit alors la terrible promesse de n'avoir de repos que quand la meurtrière serait retrouvée, jugée et pendue au gibet de la ville. Sans doute les habitants furibonds se fussent-ils précipités aussitôt vers la colline des Moulins s'ils avaient su qu'en ce moment, Alice s'y tenait, assise sur un rocher, et qui regardait les yeux emplis de larmes les dernières nappes de fumée qui flottaient en contrebas, tel un chef de guerre contemplant les cadavres dans la plaine au lendemain d'une féroce bataille. La douleur qui étreignait son corps tout entier n'avait d'égal par son intensité que la confusion qui régnait en son esprit où se mêlaient l'accablement, la rancœur, la peine et les premiers assauts du parricide remords, dont elle savait déjà qu'il ne la quitterait plus. Si ses parents avaient péri, sans doute ne le saurait-elle jamais. Une seule chose lui paraissait certaine. Ce drame ne lui laissait à présent plus aucun autre choix que celui de fuir. De fuir loin et toujours. Et peut-être était-ce en partie la raison qui l'avait poussé à le provoquer. L'heure était donc venue d'embrasser une vie nouvelle. Et que cette renaissance dût se bâtir sur les cendres et la mort, ne pouvait l'emplir d'espoir ou de joie, lui coûterait cher sans doute, mais lui donnerait éventuellement la force si particulière de ceux qui ont perdu d'un seul coup toute leur innocence. Secoué de sanglots qui ne devaient pas terminer avant longtemps, Alice attrapa ce baluchon où dans la nuit elle avait enfoui quelques objets qu'elle était allée récupérer dans la capitale de Zacharias Boulian. Un couteau, quelques galettes, une écuelle et surtout le plus précieux de tous, le vieux psanter brisé. Elle se leva fébrile, se tourna vers l'ouest, et le soleil dans le dos, portant à ses pieds des choses qu'elle avait prises au vieux juif, elle fit les premiers pas de cette longue route qui, un jour, elle l'espérait, l'amènerait à Bayonne. Chapitre 51. Andreas fut réveillé subitement par la splendeur colorée des premiers rayons du soleil qui filtraient à travers les vitraux de l'église Saint-Gilles. Les événements de la veille lui revinrent en mémoire avec la violence d'une houle de tempête, et son cœur se noie comme il pensait à Lambert et Marguerite. Il se redressa péniblement, se leva et lissa tant bien que mal ses vêtements. De toute évidence, il avait fort mal dormi. Et encore maintenant, il se rappelait la terrible image des deux corps calcinés de ses valets, qu'il n'avait pas même pu rejoindre pour rendre un dernier hommage à ces deux êtres qu'il chérissait plus que quiconque en cette terre. Qu'adviendrait-il d'eux maintenant? Comme il était désormais un fuyard, un banni, et pour longtemps sans doute, il ne pourrait pas s'occuper de leurs funérailles. Seraient-ils enterrés dignement, eux qui avaient tant mérité? Et Robin, où était-il? Andreas avait été obligé de l'abandonner, et il peinait à se le pardonner. L'apothicaire poussa un grognement quand soudain des voix s'élevèrent entre les galeries du cloître. Comme les laudes n'auraient pas lieu avant un peu de temps encore, il en déduisit que ce ne pouvaient être les moines qui arrivaient, et il se précipita vers une petite porte du transept qu'il ouvrit doucement. Ce qu'il vit alors le plongea dans une grande colère. Deux hommes, l'épée à la main, marchait tout droit vers l'église. On l'avait retrouvé. Maudit Boussel. Il referma la porte. S'il sortait de l'église, les chances de leur échapper étaient faibles. Cela ne lui laissait qu'une seule solution. Sans perdre de temps, Maître Saint-Loup courut vers le bas-cœur, enjamba la barrière de bois et contourna l'autel. Il fulmina quand son cœur, malgré lui, se mit à battre au plus fort. « Un homme de raison jamais ne s'alarme et toujours domine sa peur, » s'ordonna-t-il. Il glissa derrière l'exèdre, où était le ciel.